Sortie de boîte. Sortie de boîte, Nancy Chapuis.
En arrivant sur le site à Port-Rentruy, je découvre deux camions devant la porte. J'apprendrai plus tard que l'un d'entre eux s'apprête à transporter un four, un seul four qui finira sa route à Malte. Me voilà dans le hall et en guise de bureau d'accueil, une vache en plastique grandeur nature me transmet les salutations de Solo Suisse. Le bovin porte les couleurs de la marque, rouge et blanche, deux couleurs qu'on retrouve dans tout le bâtiment, aussi sur le billard et les baby-foot mis à disposition des employés. Après quelques marches, je rencontre enfin le réceptionniste qui me conduira à après vérification de mon identité dans une salle de réunion pour attendre mon invité et eux, une femme à la tête d'une entreprise dans le domaine industriel. Anne-Sophie Sperrison, bonsoir.
Bonsoir.
Avant d'évoquer votre entreprise Solo Suisse, on va parler de vous. Vous êtes la CEO de Solo Suisse, spécialisée dans la construction de fours industriels. Quelles études avez-vous suivies? Quel parcours avant d'arriver à Port-Rentruy?
Alors, j'ai fait des études en économie à Neuchâtel, puis je suis partie quelques années aux États-Unis où j'ai travaillé en marketing. Donc, ça a été une expérience enrichissante, une autre culture. On sort aussi d'études avec plein d'ambition et on se retrouve sur le terrain, donc on voit qu'on a beaucoup à apprendre. Ensuite, je suis revenue en Suisse. J'ai travaillé dans différentes entreprises, dont à Genève, chez Sécheron, et puis je suis revenue après dans l'entreprise familiale à Bienne pour m'occuper des finances.
Une licence en sciences économiques, c'est un regret de ne pas avoir approché davantage le monde technique pendant vos études?
Un petit peu, je pense que c'était à ce moment-là un manque de courage de ma part. Je regrette un peu, mais maintenant j'y suis vraiment plongée depuis quelques années à fond.
C'était trop compliqué à l'époque en tant que femme de pousser la porte de ce milieu-là dans les études?
Alors, il y avait très peu de femmes dans des études scientifiques. Je pense que j'ai eu un peu peur, oui.
Vous êtes donc la troisième génération de Sperrison. C'est votre grand-père qui a créé cette société avec son beau-frère, à l'époque à Bienne. Vous avez un frère et une sœur. Au moment de la reprise de la société à la retraite de votre père, vous étiez tout de suite motivée par le challenge?
Alors, j'étais très motivée par le challenge, mais il est vrai que je n'y avais pas du tout pensé avant. Ce n'était pas une évidence. Je ne suis pas partie du principe que c'était moi qui allais reprendre l'entreprise familiale. Il faut la reprendre pour des bonnes raisons. Reprendre une entreprise familiale, c'est certes une fierté, mais c'est aussi une grosse responsabilité. Et puis surtout que nous l'avons reprise avec mon mari quand elle était dans des difficultés. Donc ce qui a mis quand même un challenge supplémentaire. Mais j'étais là au bon moment. Et j'ai eu le courage à ce moment-là, avec mon mari, de la reprendre.
On s'imagine, justement dans le domaine industriel, que c'est le frère qui va reprendre. Ça ne s'est pas déroulé comme ça chez vous?
Ça ne s'est pas déroulé comme ça. Mon frère est plus un chercheur, plus dans la recherche et développement. Et lui, il a préféré suivre cette voie-là.
En 2001, à la reprise de la société, comment s'était perçue une femme dans ce domaine-là?
Alors très honnêtement, je ne me suis jamais posé la question. Nous étions dans une période assez mouvementée, donc le but était de passer, de traverser cette tempête. Donc on était un groupe de collaborateurs très motivés, très compétents, et on a tous tiré à la même corde pour sortir de cette tempête, ce qu'on a fait.
Une chef d'entreprise auprès des employés, plus vieux, plus jeune, plus âgé, ça change quelque chose? C'est bien perçu?
J'ai jamais eu de problème avec ça. Je me suis non plus jamais posé de questions. C'est peut-être à eux que vous devriez poser la question.
Est-ce que selon vous, il y a une manière de diriger différente entre hommes et femmes?
Moi, je ne pense pas qu'il y a vraiment de manière différente. Il y a peut-être des sensibilités différentes. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de maîtriser. Donc, j'irai peut-être plus dans les détails. J'adore faire des suivis de projets complètement transversaux dans l'entreprise. Donc j'adore m'impliquer. Je suis peut-être aussi peut-être un peu plus émotive qu'un homme. Mais sinon, je pense que ça ne change pas fondamentalement.
Donc vos atouts, c'est la perfection, mais les défauts,
c'est la perfection aussi.
On va maintenant s'intéresser à votre entreprise suisse. Pour qu'on s'imagine un peu mieux, on a tous dans nos cuisines un four pour les gâteaux, le gigot du dimanche. Mais ici, c'est pas du tout ça. Et les fours Solo Suisse, ça ressemble pas à ça.
Pas du tout. Vous auriez beaucoup de problèmes à faire votre gigot dans nos fours parce qu'ils montent jusqu'à 1100, 1200 degrés. Donc ça cuirait peut-être très rapidement, mais peut-être un peu trop. En fait, nos fours sont des fours pour le traitement thermique des métaux. En fait, nous changeons la propriété mécanique des pièces métallique de nos clients. C'est un petit peu barbare, mais On peut l'expliquer un petit peu simplement. Tout le monde a l'idée, le maréchal Ferrand, qui a son fer à cheval sous du feu et qu'il le tape, qu'il le forge et qu'il le trempe ensuite dans l'eau. En fait, c'est l'ancêtre du four thermique. Alors ça s'est beaucoup amélioré, la technique, la précision, la répétabilité, ça a beaucoup changé, et l'industrialisation aussi.
Vous faites deux fours dans votre entreprise, des fours à bande, fours à cloche.
Exactement.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors, un four à bande, vous avez la pièce qui va traverser le four. Elle va être chauffée, puis refroidie tout au long d'une bande. Donc, c'est un tapis qui va se dérouler dans le four. Tandis que pour un four à cloche, la pièce va être chargée dans le four, montée dans un four, puis le procédé va avoir lieu dans ce four. Le four va se déplacer sur un bac de trempe qui peut être avec de l'huile, de l'eau, du gaz ou de l'air. Et la charge va descendre dans ce bac. Et c'est à ce moment-là que le traitement, le traitement va se faire.
Donc, c'est des fours, pour s'imaginer, ça va de quelques mètres à des dizaines de mètres.
Exactement. Ça dépend tout de ce que veut le client, de la pièce du client, de la production que veut faire le client et surtout des dimensions de la pièce. Nous avons des clients qui ont des très petites pièces, de l'horlogerie, des fraises de dentiste. Et nous avons des clients qui ont des très grandes pièces, par exemple des trains d'atterrissage.
Donc on parle ici de centaines de milliers de francs pour acheter un de vos fours.
Exactement.
Vous en produisez combien alors du coup par année ?
Alors comme on n'a pas toujours des fours de plusieurs millions, on a des fours entre 200, 500, 1 million, on en produit peut-être une quarantaine par année.
Je vous propose maintenant une petite visite qu'a réalisé Jean-Michel Probst. Il s'est rendu dans le Demo Center, un espace que vous avez inauguré en début d'année. Des fours y sont exposés pour permettre aux clients, mais aussi à votre secteur de recherche et développement, d'effectuer des essais. Le guide, c'est Nicolas Salaise, docteur en matériaux.
Sortie de boîte.
Il est conçu en quatre espaces différents. Donc il y a d'abord cet atelier de traitement thermique qui est composé essentiellement de fours Borel. Ensuite, on a cette zone-là qui est plus dédiée aux fours de taille industrielle solo, en fait, sous marque solo. Donc, c'est des tailles de fours un peu plus grandes et qui permettent de travailler cette fois-ci sous atmosphère contrôlée. Ça veut dire qu'on va faire des mesures de l'atmosphère en temps réel avec un certain nombre de sondes pour être sûr que les pièces reçoivent le traitement dont elles ont besoin. Et ensuite, on va simuler pour suivre l'évolution des propriétés de la pièce dans le temps pendant le traitement.
Donc, vos clients, ce sont des entreprises qui viennent avec leurs pièces qui doivent subir un traitement thermique et ils ont la possibilité de les essayer ici. Et c'est là qu'ils font leur choix en fonction de leurs besoins.
Effectivement. Alors souvent, ils nous contactent avant. Donc, on va les orienter sur ce choix de manière préalable. Et puis après, on va venir confirmer avec eux, d'où le nom en fait de Demo Center, c'est pour faire une démonstration de la faisabilité de leur process.
On pourrait s'approcher de l'un de ces fours pour que vous puissiez nous dire, j'allais presque dire nous montrer en radio comment ça peut fonctionner.
Pour faire fonctionner un four, dans notre cas, pour faire du traitement thermique, pour nos fours en tout cas, vous avez besoin de deux choses. C'est-à-dire vous avez besoin de produire de la chaleur, de maîtriser cette chaleur, et puis vous avez aussi besoin de produire une atmosphère. Donc une atmosphère qui répond à certains critères. Par exemple, une atmosphère réductrice qui permette en fait de sortir des pièces qui soient bien brillantes après le traitement thermique. Si vous laissez une pièce à température, elle va se colorer. Et ça, souvent, nos clients veulent éviter ce phénomène. Et du coup, il faut faire des traitements sous azote, sous hydrogène. Enfin, en fonction du matériau, on va choisir l'atmosphère qui va convenir pour obtenir une surface bien brillante de la pièce à la fin du traitement.
Il y a beaucoup d'industries où on travaille le métal dans l'arc jurassien.
En fait, c'est ça qui fait tout l'intérêt de notre métier, c'est ça qui en fait toute la richesse. C'est qu'on a la chance d'avoir des clients qui viennent d'horizons très très différents. Donc ça peut être aussi bien des horlogers, des gens qui viennent de la micromécanique, que des gens qui font des pignons, des engrenages, de la coutellerie, de la monnaie. Il y a beaucoup de gens qui font de la monnaie, même des matrices pour frapper les monnaies. Par exemple, sur nos fours, on a traité les pièces des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Enfin, on a fait beaucoup de choses dans ce domaine-là. Il y a énormément de gouvernements en fait, qui frappent encore leurs pièces de monnaie en utilisant des fours solo. Ouais.
Sortie de boîte.
Nicolas Salaise, le docteur en matériaux, l'a un peu évoqué. Pour obtenir les propriétés souhaitées par le client, la pièce passe par plusieurs étapes. Les fours peuvent monter, vous m'avez dit, jusqu'à 1100 degrés.
1100 degrés. Mais après, ça dépend des types de traitement, du process que veut le client. Donc les pièces peuvent être chauffées, après refroidies, elles peuvent de nouveau passer par une phase de chauffe ou juste de mise à température. Ensuite, il peut y avoir elles peuvent être lavées, il y a une machine à laver qui les lave. Et pour certaines pièces, elles doivent recommencer le cycle pour obtenir les propriétés mécaniques souhaitées.
Donc chaque four est unique.
Chaque four est unique, mais part de base standard. Donc en fait, on prend des modules plus ou moins standards dans notre gamme et on essaie de construire un four pour le client qui sera spécifique.
Et donc créer des fours qui ne se déforment pas à 1200 degrés, qui supportent cette chaleur, là aussi il y a une prouesse technique.
Exactement, on doit utiliser du matériel qui tient à cette température et qui permet de ne pas se déformer quand on monte à des températures pareilles.
Et c'est qui fait ce travail-là alors ?
Alors on a aussi un atelier de production, des serruriers, qui fabrique en fait tout le cœur du four, que ce soit des cloches ou des canaux, c'est un peu le réacteur du four.
Maintenant qu'on a dressé le portrait de cette société, on va remonter dans le temps. Solo Suisse a été fondée en 1945 à Bienne. Pourquoi vous avez déménagé à Porrentruy à partir de 1970 ?
Alors c'était mon père qui était à la tête de l'entreprise, il cherchait à se développer. Et sur Bienne, la ville ne voulait pas céder ses terrains dans la zone de Bougeant, qui maintenant a explosé, parce qu'il y a énormément d'entreprises qui sont établies. Donc à cette époque-là, c'est mon grand-père maternel qui nous a trouvé des terrains sur Porrentruy.
Et puis petit à petit, alors ça s'est développé, puis là vous avez trouvé des mètres carrés.
Exactement. On a pu construire au fur et à mesure, il y a eu 4 ou 5 étapes de construction pour en arriver à la taille actuelle.
Je l'ai dit dans mon introduction, le rouge et le blanc, la croix suisse, le cervin, ça vous fait sourire. On les retrouve un peu partout dans les locaux de votre entreprise, Anne-Sophie Sperizen. C'est si important pour, dans votre secteur, de montrer le côté helvétique ?
Alors bien sûr que c'est important, mais c'est aussi un clin d'œil. Alors il est clair que l'industrie suisse est réputée pour être précise, pour être fiable. Mais on vend aussi tout ce qui va avec la Suisse, c'est-à-dire le cervin derrière et puis l'image de la Suisse. Parce qu'on exporte aussi dans le monde entier.
Fiable, vous me parliez d'un four, qu'un client est venu rénover, refaire 2-3 réglages, un four qui datait de 1945.
Oui, tout à fait. On a encore des très très vieux fours qui viennent en réparation. Alors souvent, ça coûte moins cher d'en racheter un neuf que de réparer. Mais les clients ont tellement l'habitude de leur four qu'ils nous demandent de les réparer.
En 1993, vous rachetez la marque Borel à Neuchâtel, qui était en faillite. Aujourd'hui encore, vous produisez ces fours à Porrentruy, beaucoup plus petits du coup. Borel, c'est une société créée en 1918. C'est pour cet ancrage, cette histoire que vous conservez le nom de cette marque ?
Tout à fait. Alors Borel est une marque c'est une entreprise qui a été créée bien avant Solo, donc très très connue au niveau suisse, qui s'est développée au niveau européen, suisse et européen aussi de manière impressionnante dans les années 80 et 90, donc fortement ancrée en Suisse, et puis c'était des produits aussi très connus.
Le four que j'ai vu lors de ma visite à Malte, des fours Solo Suisse et Borel, on en retrouve sur tout le globe.
On en retrouve sur tout le globe. Plus ou moins. On exporte 80% de notre production. Alors il est clair que l'Europe est notre marché principal avec pratiquement 60%, mais 20% partent aussi en Asie et dans d'autres pays.
Donc il y a justement par rapport à l'Asie, il y a une quinzaine d'années, vous êtes implanté en Chine. Sous quelle forme ?
Alors sous la forme d'un partenariat. Donc nous avons créé un partenariat avec une entreprise en Chine, de taille beaucoup plus grande que nous, mais qui faisait aussi des types de fours complètement différents des nôtres et pas du tout de la même technologie. Et ça a vraiment été notre base pour nous déployer en Asie, mais spécialement en Chine avec eux.
Pourquoi devoir s'implanter en Chine comme ça ? Les exportations simples depuis la Suisse, ça ne marchait pas ?
Alors si ça marche, mais la Chine, le gouvernement chinois quand ils ouvrent des appels d'offres, il y a toujours une partie du tender qui est en France, qui est en devise, et une partie qui est en RMB. Donc on ne peut pas tout offrir depuis la Suisse, donc en fait c'est un complément pour offrir une partie depuis la Chine.
Donc l'objectif pour se développer, c'est de conclure des nouveaux partenariats sur place ?
Exactement.
Dans d'autres pays, par exemple ?
Dans d'autres pays, exactement. On est en train de créer un partenariat en Inde. C'est un peu plus compliqué. La monnaie est un petit peu capricieuse ces temps, mais on y croit.
Donc c'est vers l'Asie qu'il faut se tourner pour poursuivre le développement ?
Alors il y a l'Asie, mais il y a aussi des pays en Europe, par exemple la Russie, qui se développe énormément. Il y a la Turquie, qui malgré les instabilités politiques, est un pays fortement industrialisé, qui se développe aussi beaucoup. Il y a d'autres marchés, oui.
Donc quand vous vendez un four à l'étranger, vous le vendez, puis ça s'arrête là ou bien qu'est-ce qui se passe après ?
Non, pas du tout. On le vend, on va l'installer sur place, on va le réceptionner sur place. On a une période de garantie qu'on va maintenir aussi. Et après, le four, on espère qu'il va travailler en tout cas 30-40 ans, donc on va l'entretenir. On va vendre des pièces de rechange, on va faire des upgrades, des mises à jour et des mises aux normes.
D'un point de vue technique, qu'est-ce qui reste à développer sur ces fours, fours à bande, fours à cloche ?
Alors actuellement, on travaille beaucoup sur le process, c'est-à-dire essayer d'optimiser ce qui se passe à l'intérieur du four pour obtenir des résultats avec une plus grande efficience, c'est-à-dire en utilisant le moins de gaz, en ayant le moins de rejet, en tenant compte aussi de tout l'environnement économique aussi des clients.
Est-ce que c'est le client qui vous demande un nouveau process, un nouveau processus, ou alors c'est vous qui proposez de nouveaux éléments ou arriver à une nouvelle propriété de pièces ?
Alors, c'est des développements qui se font de manière conjointe. Généralement, nos clients viennent avec une demande, comme l'a expliqué Nicolas Salès. Alors, si c'est des développements qu'on a déjà faits, pas de problème. Si c'est des développements qu'on n'a pas encore faits, mais où on sent qu'il y a un grand potentiel, alors là, on va faire des développements avec le client, ou alors on se dit, on se lance dans ce développement-là, dans ce procédé-là.
Lors de notre première rencontre, vous évoquiez l'industrie 4.0. Ça aussi, c'est un nouveau challenge ?
Tout à fait. Donc, la connectivité des objets, c'est un nouveau challenge. Nous, on le voit pour une opportunité de proposer plein d'autres produits, notamment dans la maintenance.
Développer un peu le 4.0, qu'est-ce que c'est ?
Alors le 4.0, alors il y a plusieurs écoles. Nous, on essaie de mettre des capteurs partout sur le four pour avoir des informations que le client pourra remonter dans son ERP ou dans son système de gestion pour qu'il ait une vision très précise de ce que fait le four, des remontées de consommation d'énergie, des remontées de productivité, ou alors connecter d'autres objets à son four.
Vous parliez avant d'environnement, les questions environnementales, ça aussi, ça vous intéresse ?
Tout à fait. On vient de passer nos certifications 14001, donc c'est aussi important que notre entreprise, que nos produits aillent dans une direction d'un environnement plus propre, d'être plus propre au niveau environnemental.
Alors comment on fait quand on construit des fours industriels pour être plus propre ?
On doit choisir des matériaux qui sont recyclables, on doit choisir des gaz qui ont peu de rejet dans l'atmosphère, des matériaux qui ne sont pas dangereux pour l'environnement ou qui se recyclent parfaitement bien. Il y a quand même beaucoup de pistes pour améliorer cela.
C'est le moment de retrouver la chronique pile à l'heure de Marie-Lise Saillard qui s'intéresse aujourd'hui au monde de la gainerie, l'écrin qui accueille les montres et autres bijoux.
Pile à l'heure.
Fabriquer des montres, c'est bien, mais on ne vend pas une pièce, si modeste soit-elle, sans la placer dans un emballage. Dans le haut de gamme, on soigne la présentation et pour fabriquer leurs écrins, beaucoup de grandes marques s'adressent à l'entreprise Vodo, spécialisée dans la haute gainerie depuis 1908 à Genève. L'entreprise peut fabriquer de grandes séries, mais elle est surtout reconnue pour ses pièces spéciales. Raphaël Athème, designer.
On va plutôt aller sur des belles pièces qu'on sait faire comme ici, où on a les gainés. Autre chose que du cuir, où là on a les gainés par exemple un tissu qui est inspiré des costumes pour hommes. L'idée aujourd'hui, c'est d'offrir aussi un savoir-faire qu'on ne connaît pas forcément, comme ici, où on va aller avoir de la marqueterie de cuir.
La collaboration interne mène parfois à des créations particulières.
Combien pour ce chien dans la vitrine ?
On va souvent travailler en collaboration avec les prototypistes, donc Katia qui est ici même, elle va proposer, moi je vais proposer un design comme ici pour ce chien, où justement on est allé gainer des parties de cuir, on allait imprimer, on s'inspirait un peu des tendances tatou actuelles, et puis Katia va apporter sa patte et elle va apporter sa touch à cette œuvre d'art qui est une pièce unique. I do hope that doggy's for sale.
Un chien, oui, un bon gros toutou, mais pas poilu et qui ne risque pas de mordre. Peut-on réellement considérer ce chien comme un écrin, Raphaël Hatem ?
Alors non, je dirais pas ça. L'écrin, c'est vraiment une spécificité d'écrin, c'est-à-dire d'accueillir une pièce. Nous, on est là pour magnifier la pièce. Mais dans le cas de ce chien, l'idée, ça a été vraiment de magnifier notre savoir-faire. Parce que là, on est vraiment sur de la marqueterie de cuir, où on va placer les éléments, les découper, les retravailler et les assembler. Alors, Winston, notre mascotte, a un succès fou. Tout le monde l'adore. Non, sincèrement, il a un succès incroyable. Tout le monde l'adore, il est pris en photo. C'est notre mascotte, on l'adore.
Bon, donc les créateurs se font parfois plaisir avec des pièces décoratives destinées à montrer leur savoir-faire. Du coup, comme leur expertise est reconnue, il leur arrive d'avoir des commandes un peu particulières.
On fait des coffres-forts pour des personnes dans les Émirats arabes unis. Donc ont beaucoup d'argent et qui ont évidemment des pièces extraordinaires. Des personnes viennent sur place, prendre les cotes et puis on va gainer des coffres-forts incroyables pour des princesses et des princes. On va savoir déjà qu'est-ce qu'il a comme pièce, donc par exemple des colliers, et on va magnifier tout ça. Vous doutez bien, des princes et des princesses, ils vont pas mettre ça comme ça. Donc nous, on va vraiment les rendre splendides.
Pile à l'heure. Anne-Sophie Sperizen, les entreprises horlogères font aussi partie de vos clients. Ce sont les plus exigeantes ?
Ça fait partie des plus exigeantes parce qu'ils ont des produits de très haute qualité. Mais je dirais presque toutes les entreprises sont des entreprises très exigeantes.
Dans les autres clients, il y a aussi le médical qui doit être assez pointu, j'imagine.
Tout à fait, le médical avec des pièces qui sont très très petites ou très très précises, donc qui ne permettent aucune déformation lors du traitement.
Là, vous vendez des fours Borel, les plus petits du coup ?
Alors pour certains traitements, on va vendre des fours Borel, mais pour d'autres, on va vendre des fours à passage où on va traiter les pièces sur des tapis.
Anne-Sophie Sperizen, nous arrivons déjà au terme de notre émission Sortie de boîte. Je vous remercie de nous avoir consacré un peu de votre temps.
Merci à vous.
J'espère que tout s'est bien passé. Vous retrouverez donc cette émission sur notre site internet en podcast. La semaine prochaine, Alizé Lichti s'intéresse au monde de l'horlogerie, mais pas au cadran, aux bracelets, des bracelets révolutionnaires avec l'entreprise chaudronnière New Moon. David Van Outhegon sera notre invité. Je vous souhaite une excellente soirée.